exposé introductif à la discussion, le commun infini de la multitude. Alors, ça peut paraître un peu emphatique, mais je vais tout de suite à la conclusion, donc comme ça vous pourrez continuer à dormir pendant mon exposé. L'hypothèse de travail dont je voudrais vous convaincre du bien fondé, mais de manière intuitive, rassurez-vous, est la suivante. Le commun de la multitude est doublement infini. Il n'a ni terme dans le temps, ni frontière dans l'espace public, ni dans sa chronologie, ni pour reprendre de multitude qui vient de paraître en France. Alors je partirai pour cela du titre du papier que j'avais diffusé sur le site du séminaire pour préparer la séance d'aujourd'hui et qui s'intitulait, avec un petit clin d'œil évidemment, un gros clin d'œil même, « Génération de tous les temps, unissons-nous ». Alors, le clin d'œil, évidemment, c'était avec le fameux slogan du 19e siècle, « Prolétaires de tous les pays », etc. Et donc, pour vous, j'explorerai les trois apories. Donc, au fond, j'ai été pris, comme tout bon méditerranéen qui se respecte, par la beauté de la formule. « Génération de tous les temps, unissons-nous », ça faisait... On avait l'impression qu'on passait, en quelque sorte, du parti... leader de la classe ouvrière du 19e siècle à l'écologie politique du 21e siècle, et donc c'était très satisfaisant, au moins en première approximation. Alors quand on réfléchit un petit peu à la question, comme j'ai essayé de le faire, et je vais vous livrer le résultat de ma réflexion, on tombe sur trois types d'apories qui montrent que on ne peut pas adopter aussi facilement qu'on le désirerait ce slogan. Alors, pour exposer ces trois apories, je vais me servir de trois moments de ma vie professionnelle. Il y a 20 ans, je travaillais dans les états-majors de l'état-providence. Et en particulier, j'ai participé à la mise en place du revenu minimum d'insertion. Et à cette occasion, j'ai pu mesurer les limites du calcul économique en général, et en particulier de la doctrine qui est née au moment du 19e siècle, au moment où est né l'État-providence en France en tout cas, et doctrine qui s'appelle le solidarisme, et qui a été popularisée par Léon Bourgeois, mais également par de grands intellectuels en droit Duguy, à Bordeaux, et également le sociologue Durkheim, et puis j'en oublie sans doute dans ce qu'on a appelé la synthèse républicaine. Alors, l'histoire de l'État-providence, cette doctrine de solidarisme, ça a été restitué un peu par l'ouvrage de François Ewald, 86, l'État-providence. Et donc, François Ewald a montré comment cette doctrine permettait de rationaliser, ce que vous voudrez donner à ce mot, le passage, au fond, d'une notion de responsabilité pour faute à une responsabilité sans faute, et donc de mettre en place dans le domaine du social les techniques de l'assurance, et donc de soumettre au calcul économique, en quelque sorte, une solidarité collective. Le second type de limite auquel se heurte la notion même de solidarité intergénérationnelle, qui est implicite au slogan que je citais, « Génération de tous les temps, unissons », c'est lorsque j'étais au ministère de l'Environnement et que j'ai découvert les charmes du mot « valise » non durable. Donc réfléchir à l'articulation entre le développement durable et un autre principe qui a eu son heure de célébrité l'été dernier, le principe de précaution, puisqu'il est inscrit dans la charte du développement durable dans notre constitution. Là, à nouveau, on rencontre les limites du calcul économique, et donc l'incapacité à essayer de fonder rationnellement une solidarité intergénérationnelle. Dans les deux cas, le solidarisme comme le développement durable, on voit qu'il y a une part du commun, pour reprendre la terminologie de ce séminaire, qui est irréductible, alors là je vais faire un peu de provocation, c'est-à-dire on a l'impression que le commun pourrait se définir comme étant les limites du cognitif, dans les prétentions du capitalisme cognitif, à, là aussi je vais jouer sur les mots, à arraisonner le social. Par provocation donc, on pourrait donner à cette différenciation interne du commun, comme nom de baptême, à nouveau je vais persévérer, le nom de capital incognitif. C'est-à-dire que, donc il y aurait une... Alors évidemment, le mot capital supposerait qu'il soit inclus, qu'il est sous la domination du capital, donc c'est un peu contradictoire, nul, aporétique d'appeler ça... Alors j'en viens ainsi à proposer, si j'ose dire, d'instaurer une cérémonie annuelle commémorative à la mémoire du capital inconnu, auquel les générations futures seront reconnaissantes. Ma troisième expérience, elle est moins professionnelle que politique. En affinité avec mon militantisme chez les Verts, j'ai été conduit à organiser avec un ami, économiste également, Serge Latouche, deux colloques qui ont fini par de la compatibilité entre l'approfondissement de la démocratie et la nécessité de réorienter d'une manière sévère le contenu de la croissance, de la richesse économique, voire, pour symboliser cette réorientation drastique, donc c'est le slogan de la décroissance. Comment on peut faire freiner les cas de fer, comme aurait dit Chirac à Johannesburg, et que ce soit compatible, comportement, démocratiquement, délibéré et voulu. La solidarité avec les générations futures bute alors d'une accumulation primitive à l'envers, que j'ai appelé dans un colloque de septembre dernier, Marx IV, les générations futures. Alors vous savez que dans l'accumulation primitive, Marx, quand il décrit là les catastrophes engendrées par exemple, si vous souvenez son texte, il emploie l'expression d'exploitation minière de la force de travail. C'est-à-dire au fond, c'est un stade du capitalisme tellement sauvage que ce capitalisme n'est pas conscient de son intérêt bien compris et qu'il en vient à passer outre les standards minimaux de la reproduction de la force de travail et donc à ne même pas reproduire la force de travail en l'état. Alors j'aborde donc le premier point, donc les trois parties de mon exposé s'intitulent, la première partie, donc ça renvoie à mon expérience, à la caisse nationale des allocations familiales, le commun des contemporains d'une, c'est-à-dire la solidarité nationale, donc ça c'est si on veut la solidarité dans le cadre de l'état-nation territorial, puisque c'est quand même la réalité de la fin du 19e siècle en France. La deuxième partie s'intitule « Le commun écologique » ou, en d'autres termes, comment le dépassement de toutes parts des frontières de l'État-nation par une solidarité écologique engendre un nombre de transformations sur la topologie du commun à l'échelle mondiale, que j'appelle, c'est une formule des... par les auteurs d'Empire et des Multitudes, l'Empire monde archipel pour l'opposer à l'État-nation territoriale. Et dans la troisième partie, donc je passe de la topologie à la chronologie, si je veux dire, je l'intitulerai « Le commun des générations de tous les temps », deux points, la chronologie de la communion des saints, c'est-à-dire, là je pense, puisque nous venons d'avoir un nouveau pape, qu'il faut faire référence à la théologie qui a beaucoup réfléchi sur cette question de la solidarité intergénérationnelle et dans la théologie classique de l'Église catholique, même de l'Église orthodoxe, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. C'est donc, vous montrerez comment l'extension à l'ensemble des générations du commun, de la solidarité intergénérationnelle, engendre un certain nombre de conséquences sur la chronologie de la multitude. Alors, historiquement, en plus, ça coïncide avec une chronologie historique, grossièrement, la naissance de l'État-providence en France, donc, à la fin du XIXe siècle. Et donc, dans le livre de François Ewald, c'est la fameuse loi d'avril 1898 sur les accidents du travail qui fait passer de la notion de responsabilité sans faute, de la responsabilité avec faute, avec la responsabilité sans faute. La deuxième transformation, c'est à l'intérieur du droit proprement dit, le fait qu'on passe de ce que les juristes appellent les droits de première génération, les droits liberté, aux les droits de liberté d'opinion, liberté de circulation, liberté, enfin, etc., aux droits à, c'est-à-dire les droits créances, donc les droits qui entraînent de l'autre côté une obligation des pouvoirs publics. Pour éclairer cette, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes dans ce séminaire, puisque pour faire allusion à une question brûlante d'actualité, dans les débats assez animés en France, et je me plains qu'ils soient animés uniquement qu'en France, au sujet du traité constitutionnel européen, la question porte différence entre le droit de travailler et le droit au travail. Et donc, pour le droit français, si le traité constitutionnel était adopté, s'il s'imposait, ce qui n'est pas le cas sur cette question du droit de travail, ça serait une régression, puisqu'on passerait de droit de deuxième génération, de droit créance, droit au travail, donc un droit opposable à l'État, qui est normalement, même s'il est défaillant, censé vous fournir les moyens de travailler, à un droit liberté, c'est-à-dire que personne ne vous empêche de chercher un travail, etc. Thème de la Commission, on voit très bien qu'il y a eu un changement très significatif sur le plan sémantique, c'est qu'au lieu de porter le projecteur sur le taux de chômage, on porte le projecteur sur le taux d'emploi, et donc on voit très bien que on passe à la trappe, justement, le passage de ce droit créance à ce droit, cette régression du droit créance au droit liberté. Alors, les ont fondé la doctrine solidariste, qu'on a oubliée depuis, évidemment, justement, ont mis en avant ce droit créance. Et ils ont imaginé, c'est une inversion complète, donc au fond, c'est une espèce d'extrapolation à l'échelle de la société tout entière, et une inversion en même temps, en géométrie, on pourrait appeler ça une inversion avec un taux négatif, au fond de la solidarité patriarcale. C'est-à-dire que dans la doctrine solidariste, pour la résumer très très vite, tout être humain en naissant est créancier sur la société tout entière du droit à exister du moment qu'il est né. Et donc, du coup, à l'époque, ce qui était très en avance par rapport aux discussions qui ont eu lieu à propos de la naissance du revenu minimum d'insertion, les solidaristes de l'époque disaient, mais au fond, tout être humain en naissant a droit à un revenu tout le long de son existence qui lui permet de subsister, d'exister. Alors tout ça, on voit très bien que c'est une inversion par rapport à l'obligation alimentaire, parce que l'obligation alimentaire, surtout à cette époque-là, où évidemment les différences, c'est-à-dire que l'espérance de vie n'était pas du tout celle de notre époque, donc l'obligation alimentaire était dans le sens des enfants vis-à-vis des parents, et non pas des parents vis-à-vis des enfants. Donc, par rapport à notre époque, l'allongement de la durée de vie a évidemment inversé complètement les choses. Alors, cette doctrine est relativement spécifique à la France, et d'une manière plus ou moins contemporaine, en réalité, ce qui a été de fait massivement important, parce que la doctrine solidariste ne s'est pas... Elle a été proclamée comme doctrine, mais avant de rentrer dans les faits, il a fallu attendre pratiquement 70 ans, puisque en France, la législation sur les retraites s'est mise en place juste après, et l'État-providence proprement dit n'est né qu'après la libération proprement dite. C'est en réalité Bismarck, comme vous le savez, qui a mis en place le système de solidarité donc en 1872 ou 13, si mes souvenirs sont exacts. Et dans l'éventail des États-providence en Europe actuellement, vous avez au fond trois grandes catégories d'États-providence suivant le principe fondamental qui organise